on va commencer si vous en êtes d'accord. Donc si vous voulez bien prendre place, rapprochez-vous, ce sera plus chaleureux, ce sera plus sympathique de vous rapprocher un peu. Vous avez le droit de vous rapprocher même avec le café à la main. Donc on va commencer la première table ronde. Donc pour mettre tout le monde à l'aise, le but de ces discussions, de ces rencontres, c'est pas de faire une ambiance colloque, c'est vraiment de discuter, de débattre et que tout le monde se sente à l'aise pour aborder un maximum de sujets, le temps de prendre la parole, le temps de discuter, d'approfondir les sujets. Donc là, on a pu réaliser ça notamment avec l'aide de Patrick, là, que je tiens à remercier parce que c'est lui qui s'est occupé principalement de l'initiative avec beaucoup d'autres, mais et puis de la maison d'édition. Donc là, il y aura deux. Et le livre, La conjuration des inégaux, c'est plus un support pour permettre des rencontres, des discussions. Et voilà, on va dire que c'est l'occasion qui permet d'eux. Donc là, il y aura la proposition qui est faite, c'est d'organiser deux tables rondes. Une première, là, qu'on va débuter sur la question de la représentation de la classe ouvrière. Et puis un deuxième débat qui commencera à 15h30, plus général sur quel sujet d'émancipation aujourd'hui. On va essayer de généraliser un petit peu la discussion, même si évidemment, il y aura des chassés croisés. Alors, je vais vous présenter les trois intervenants et intervenantes que je remercie particulièrement d'être là. Voilà, je suis vraiment sans bluffer, sans cirer les chaussures, très touché qu'ils aient pris le temps de venir pour discuter de cette discussion de la représentation de la classe ouvrière. C'est-à-dire, en fait, ça paraît un peu pompeux, mais l'idée plus générale, plus simple, c'est de dire d'essayer de faire se rencontrer des personnes qui donnent la parole à la classe ouvrière, qui la font parler, ou des personnes de la classe ouvrière qui prennent la parole dans le cadre d'un conflit ou autrement. Donc pour illustrer ce propos, on aura donc Marcel Tria, on aura donc Gérard Mordilla et Ghislaine Tormos, que je présenterai au fur et à mesure. Donc Marcel, il est évidemment réalisateur et journaliste. Gérard, il est romancier et puis cinéaste. Et Ghislaine, qui a pris le temps en séchant le boulot ce matin, puisqu'elle travaille à Poissy maintenant depuis lundi, et elle devait travailler ce matin, mais bon, voilà, c'est l'ouvrière de PSA, on va te présenter comme ça, voilà, qui a écrit un livre dont on parlera tout à l'heure. Donc là, le but du jeu, c'est, chacun va intervenir un petit peu, et puis on aura une discussion un petit peu sur ce que pensent les uns les autres de cette question de la représentation de la classe ouvrière. En fait, ce qui nous a un peu, préoccupé pour organiser cette table ronde, et puis c'est aussi pour ça qu'on a pensé aux trois intervenants, et puis on aurait pu penser évidemment à d'autres, c'est de voir un peu quel est le problème de la représentation de la classe ouvrière dans la société. Alors représentation au sens large, hein, ça peut être représentation sociale, ça peut être une représentation syndicale, ça peut être la représentation politique, ça peut être la représentation médiatique, c'est-à-dire d'une classe ouvrière finalement qui est peu représentée, pour utiliser un grand euphémisme, et quand elle est représentée, est franchement maltraitée. Voilà. Je dirais, dans le meilleur des cas, on a le droit à quelque chose de larmoyant, l'espace de quelques secondes aux 20h. Alors l'ouvrier ou l'ouvrière qui verse sa larme sur ce qui est en train de lui arriver, son sort, mais donc son sort, sous-entendu, peut comprendre un ouvrier ou une ouvrière que sous l'angle du sort qui lui est attribué et qui l'attend. Ça, on peut y avoir droit. Et puis, les jours de fête, quand une usine menace de tout faire péter, quand il y a quand même un gros mouvement de grève, quand il y a des gueules qui commencent à s'ouvrir, ou parfois même quand il y a des séquestrations, on a le droit à quelques secondes, mais globalement c'est ça. Et je crois qu'on vit dans cette société où je dirais la complexité, même en termes de lutte de classe, n'appartient qu'à un seul camp. C'est-à-dire que du côté de la classe des riches, on a le temps de prendre à la télé des secondes, des minutes précieuses, hein, puisqu'à la télé c'est très précieux, des temps d'explication pour comprendre à quel point c'est complexe, la classe des riches, même si elle est assez simple à comprendre du point de vue de son unité, de sa structuration. Mais en tous les cas, il y a place pour la complexité. La classe des riches, il faut prendre le temps d'expliquer que c'est des investisseurs, que c'est compliqué pour eux, qu'ils vivent dans une société vraiment difficile, qu'en même temps on dépend d'eux, c'est dingue de voir à quel point on dépend d'eux. Et non, on a le droit à une ribambelle d'explications sémantiques, alors que pour la classe ouvrière, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus simpliste, c'est plus direct. Il y a place pour pas grand-chose. Et donc, pour illustrer le dernier exemple en date, pour symboliser aussi, je dirais, les inégalités même en termes de représentation. On va parler de celui que j'appellerais le premier homme de France, puisque vous savez qu'on a beaucoup cogité ces dernières semaines sur le voyage présidentiel aux États-Unis. Et on a eu une ribambelle de constitutionnalistes à l'appui pour nous expliquer est-ce que la première dame de France, ça existait ? Est-ce que c'était vraiment envisageable pour le président de la République, François Hollande, de partir rencontrer Obama dans un dîner qui sera un dîner de gala sans première dame de France, même si ça n'existe pas, quand même c'est compliqué. Donc on a eu ça, des explications en live, ça a duré longtemps. Puis finalement, elle n'est pas venue. Donc François Hollande y est allé tout seul, il était reçu par un couple, il était tout seul, et puis il a rendu ce vibrant hommage à celui que j'appelle le premier homme de France, c'est-à-dire Agathaz, puisque pour ceux qui l'ont suivi, c'était il y a 48 heures, devant un parterre de, je crois, 500-600 jeunes entrepreneurs dynamiques, et même pour ceux qui ne le sont pas, jeunes entrepreneurs, ils sont présentés comme jeunes entrepreneurs dynamiques de la Silicon Valley. Il y avait, c'était une assemblée générale, et il a fait donc, dans un mouvement particulièrement émouvant, applaudir par l'assemblée le nom de Agathaz, en expliquant que, d'abord, pendant ce voyage de 48 heures, il était content de se retrouver entre Français et qu'en 48 heures, on avait le temps de tisser des connivences et des complicités, qu'il était vraiment heureux d'avoir tissé des complicités avec Agathaz, qu'il a fait donc applaudir par l'Assemblée. Ça paraît anecdotique, mais mine de rien, en termes de représentation, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça signifie pas simplement de quel côté est le pouvoir politique, même sous un gouvernement socialiste, entre guillemets. Peut-être qu'un jour, il faudra les appeler autrement, d'ailleurs. Mais ça signifie beaucoup du point de vue de la représentation. C'est-à-dire que là, on a une représentation, une visibilité. Pour le restant, il n'y a plus beaucoup de points de repère. Donc c'est un peu de tout ça dont on va essayer de discuter à partir du parcours des uns et des autres. Donc je vais